Développement durable. Un magazine sur l'environnement et le développement durable. Une émission coproduite par Fréquence Sillée 97.9 et Radio Alpes-Mancelle 106.3 en partenariat avec le Pays de la Haute-Sarthe.
Nous allons parler aujourd'hui d'agriculture bio et pour ce faire, eh bien, nous recevons une famille qui s'est investie dans cette filière. Cette famille est installée sur Conly. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Blanche. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et Guy, bonjour.
Bonjour.
Tous les deux, vous êtes passés dans cette filière depuis combien de temps ?
Ça fait 18 ans maintenant.
Vous avez quel type d'agriculture ?
Nous sommes installés sur une ferme céréalière qui comporte environ 80 hectares. Et donc, nous sommes trois sur l'exploitation, hein, sous forme de société. Donc, moi, mon épouse et un salarié.
Vous êtes passé dans cette filière tout de suite, dès que vous avez eu l'intention de vous installer, ou est-ce que vous étiez avant d'une filière plus classique ?
Non, pas du tout. J'ai suivi une formation agricole classique, un BEP agricole. Je me suis installé donc sur une exploitation, en conventionnelle. Pendant 4 ans, les 4 premières années de mon installation, j'ai produit des céréales donc conventionnelles. Et donc en 92, j'ai reconverti l'exploitation en bio.
Alors une reconversion dont on va reparler un petit peu plus tard parce que ça ne se fait pas très facilement. Je crois qu'il y a pas mal de contraintes pour passer au bio. Isabelle, vous étiez, dans l'agriculture ou vous êtes femme d'agriculteur ? Comment est-ce que vous vous définissez ?
Ah non, moi je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. En fait, j'ai connu l'agriculture lorsque j'ai connu Guy. J'ai décidé de franchir le pas et de m'installer avec lui sur l'exploitation. Mais pour ce faire, il fallait un projet aussi pour que j'aie ma place et... la transformation nous a semblé logique pour que je puisse rester et aussi dégager un salaire sur l'exploitation. Donc on a décidé de transformer nos céréales, et d'autant qu'on avait un four à pain aussi qui était sur l'exploitation, et il nous semblait logique d'aller vers la transformation blé, farine, pain, en vente directe.
Voilà, donc vous êtes en vente directe sur le pain. Une transformation, donc on va y revenir, Guy et Isabelle, qui s'est passée en combien de temps ? Comment est-ce qu'on décide comme ça de quitter la filière conventionnelle pour passer à la filière bio, d'autant qu'on rappelle que c'était il y a un petit temps maintenant, donc le bio n'avait pas, la portée qu'il a aujourd'hui, donc c'était un vrai challenge.
En fait, l'idée a germé en 91, l'année d'avant, et au niveau de l'agriculture, la PAC devait être révisée, et donc il y avait une remise en question sur l'exploitation puisqu'elle était tournée qu'en céréales. Au cours d'un entretien avec un conseiller de la chambre d'agriculture pour mettre au point un nouveau logiciel, on a étudié donc le fait de se reconvertir en bio, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et en plus, disons que c'est tombé aussi au début où la France a aidé la reconversion en agriculture biologique. Auparavant, la reconversion n'était pas aidée. Depuis 92, on aide les exploitants qui veulent bien se reconvertir. Ça s'est fait aussi personnellement, donc depuis l'âge de 8 ans, je consomme des produits bio. Et donc, je connaissais déjà les produits bio. Et quand le choix s'est fait, il m'a semblé logique de passer au tout bio.
Voilà, donc vous êtes quand même un précurseur. Alors ces aides, elles consistaient en quoi à l'époque ?
Ces aides, c'était des aides qui étaient donc européennes, 50% européennes, 50% de l'État française. Et donc c'était un contrat sur 5 ans. Donc il fallait engager l'exploitation pendant 5 ans sur un mode bio. Et donc on avait une aide pendant, je crois que c'est les 5 premières années.
Et les 5 premières années, vous pouviez déjà vous déclarer bio, ou alors il y a 5 années de latence ?
Comme aujourd'hui, en fait, dès 92, nous étions déjà contrôlé par un organisme agréé qui s'appelle EcoCert. Et donc, puisque le cahier des charges, le contrôle doit s'effectuer obligatoirement depuis 91, et donc depuis 92, nous sommes contrôlés par EcoCert. Les deux premières années, c'était des années de reconversion, et là, la troisième année, donc qui était en 95, c'était la première année où nos produits pouvaient être sur le marché bio.
Alors, en attendant, quand on est en conversion, on vend ces produits sous quel label ?
Pour pallier, ce sont les aides de reconversion qui viennent aider l'exploitant, comme aujourd'hui.
Oui, mais Guy, sa production pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait de la production ?
La production, alors, comme aujourd'hui, la production de la première année reste dans le circuit conventionnel.
D'accord.
La deuxième année, elle s'intègre tout doucement dans l'alimentation animale bio.
Voilà, donc, une graduation jusqu'au
deuxième
label.
Deuxième année, conversion, deuxième année, les produits de conversion entrent dans l'aliment bio pour l'alimentation animale.
Alors, tout ça est très très contrôlé. Alors il existe un cahier avec des variétés qu'on peut cultiver et d'autres non. Expliquez-nous un petit peu ce cahier.
Sur l'exploitation, disons que on travaille avec le réseau Semences Paysannes. On peut le découvrir sur internet, hein. Et donc tout doucement, l'INRA avait en partie, disons en collaboration avec l'INRA, des vieilles variétés ressortent et donc sont développées tout doucement au sein de son réseau. Et donc pour retrouver à la fois les, disons, des variétés qui s'adaptent mieux à l'agriculture biologique.
Puis qui sont peut-être plus adaptées à notre territoire, à notre climat.
Tout à fait, c'était des variétés qui étaient cultivées avant la vulgarisation en agriculture qui date à peu près de 1820. Des variétés qui étaient, disons, dites paysannes, puisqu'elles étaient transmises...
par la femme. Lors du mariage,
voilà. Ah oui.
Donc,
ah oui,
dans sa dot,
d'accord.
C'est elle qui apportait le blé et c'est elle qui ensemençait.
D'où la semeuse.
Ah.
Voilà. L'homme préparait le terrain avec les animaux et la femme semait.
Voilà, cette semeuse qui a orné si longtemps nos pièces d'un front, je
Tout
crois.
À fait.
Hein.
C'est le rythme de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Qu'il est bien fort, rustique, corps de vocal. Qu'il est bien fort, rustique, corps de vocal.
Et puis c'était évidemment des céréales qui étaient plus adaptées. Par exemple, on pense au maïs qui est très gourmand en eau, je crois. Donc on n'avait pas ce souci avec ces anciennes céréales.
Non, ces anciennes céréales sont surtout déjà, donc elles sont plus indigènes. Mm-hmm. Et donc elles sont très hautes. C'est des variétés qui peuvent faire plus d'un mètre 80 d'hauteur. Et donc elles savent comment dominer. Et donc
les mauvaises herbes.
Les mauvaises herbes. Et en bio, c'est très important, puisqu'aujourd'hui les variétés sont très très courtes. Et les mauvaises herbes en bio peuvent passer par-dessus, alors que là, c'est le blé qui domine. Et donc c'est un atout très important pour nous en bio.
Alors le seigle, l'orge, ça entre dans ces variétés ou
toutes les variétés de céréales sont encore
il existe des variétés
disponibles dans,
chaque...
dans les frigos de l'INRA.
Oui. Voilà, mais on retrouve plus maintenant, d'après vous, de cultures céréalières de ce type.
Bah, il faut
orge,
qu'à la base ce soit
seigle.
Une volonté de l'agriculteur, parce mm-hmm. que semences paysannes, c'est sur le système du volontariat. Donc on nous délivre quelques grammes de ces variétés. Et donc par un contrat avec Semences Paysannes, on décide de développer. Donc ça se fait pas comme ça non plus. Quand on part de 500 grammes de semences, il faut quelques années avant de pouvoir...
Oui, c'est plutôt 100 grammes.
100 grammes, 100 grammes. Ouais, même.
Ah oui, c'est avec ces 100 grammes que vous allez devoir après...
Voilà.
Rendre des comptes.
Rendre des comptes, hein, puisque vous avez des réunions où chacun... On a des grilles à remplir pour savoir comment se comporte la céréale, quelle hauteur, au niveau des maladies, s'il y a des maladies aussi qui s'y installent. Enfin,
c'est un véritable contrat avec le Semences Paysannes, les Pays de Loire et l'INRA, en collaboration avec l'INRA.
Alors, dans le bio, évidemment, pas de pesticides, on est bien d'accord ?
Évidemment.
Alors, les gens se posent souvent la question de savoir comment vous vous en sortez, comment, par exemple, désherbez-vous vos cultures ?
Avant d'ensemencer et de cultiver, on réfléchit beaucoup à la rotation avant de cultiver donc les céréales, parce que si on discute du blé, des céréales, mm-hmm. c'est très important de cultiver des légumineuses auparavant. Donc les légumineuses, elles vont enrichir le sol en azote grâce à leur pouvoir de capter l'azote de l'air qui évite d'apporter de l'engrais chimique. On réfléchit justement à la rotation, à notre assolement. Donc sur notre exploitation, on a 50% de notre assolement qui est en légumineuses, 50% en céréales. Quand on va cultiver cette culture, on va dans un premier temps pas la cultiver trop tôt parce que les variétés, disons, les céréales sont emblavées à l'automne, c'est l'époque des champignons, donc mm-hmm. on va pas se mettre très tôt. Hein, on va éviter les champignons. On va et après au printemps, on passera avec des outils pour désherber mécaniquement, puisqu'on n'emploie pas de pesticides, pas de désherbants chimiques. Donc nous sur l'exploitation, on a combiné. En fait, devant le tracteur, on a une bineuse. C'est des outils tranchants qui vont découper la terre sous quelques centimètres de profondeur. Donc ils vont découper les mauvaises herbes. Et derrière le tracteur, il y a une herse qui va entre guillemets affiner les mottes. Et entre ces deux, on va semer une légumineuse, par exemple le trèfle, qui va resservir pour la culture d'après.
Hautement durable, une émission coproduite par Fréquence Sillée 97.9 et Radio Alpes-Mancelles 106.3 en partenariat avec le Pays de la Haute-Sarthe.
Ouais, il y a une vraie réflexion. Là, c'est un partenariat avec la nature, carrément.
Oui, tout à fait. En fait, on n'invente rien. On reprend juste ce qu'on avait perdu.
En fait, l'agriculture bio, c'est être à l'écoute de la nature.
Ouais,
hein.
C'est ça.
Voilà.
C'est reprendre.
C'est semer suivant les saisons, effectivement. Un
quand
truc
le
pas
temps
bête,
le permet.
Mais voilà, quand le temps le permet.
Évite la terre,
elle est en bon état.
Elle est en bon état, voilà. C'est être à l'écoute de la nature.
Ouais. Pour nous aider aussi, en plus, on a. Parce que l'objectif, c'est de cultiver et d'avoir un certain, disons, une certaine quantité, un volume de grains à l'hectare pour arriver à en vivre nous, mais surtout aussi pour que ça soit une agriculture quand même, disons entre guillemets, valable, enfin, qui puisse nourrir tout le monde. C'est pas voilà. Et donc, on a piqué des haies sur notre exploitation, sur le siège d'exploitation, sur le siège qui fait à peu près 40 hectares, on a repiqué 2,5 km de haies. Et elles accompagnent bien aussi le développement de nos cultures, puisque c'est pour...
C'est la biodiversité.
Voilà, à la fois mécanique pour briser le vent.
Les insectes.
Les insectes, les oiseaux. Produire du bois. Éviter justement l'achat de produits d'issue de pétrole pour chauffer notre maison.
C'est un accord, vraiment. Revivre en harmonie. Alors, vous utilisez aussi les auxiliaires de jardin. Vous pouvez nous dire un petit mot sur les auxiliaires de jardin.
Justement,
elle
favorise justement les insectes qui vont être auxiliaires, qui vont pouvoir se nourrir sur sur les céréales quand il y a par exemple des pucerons. Oui, il y a les insectes qui sont nos auxiliaires. Sur l'exploitation, on a aussi de l'élevage. On a un troupeau de moutons. Donc les moutons servent à l'installation des prairies justement à base de légumineuses dans la rotation. Ils servent aussi à apporter un petit peu de effluent, donc sous forme de compost. Ils sont vendus en vente directe, bien entendu. On a donc un peu de porc aussi, quelques cochons sur l'exploitation qui servent à transformer les produits qui sont, on appelle ça aujourd'hui les coproduits, les produits qui sont de matière non moins noble.
Vous les nourrissez avec, et donc ça...
Quand on écrase le blé, on a les issues qui sont le son, donc ils sont nourris avec le son, avec
les tourteaux de tournesol.
Les tourteaux de tournesol, des déchets. Quand on trie les céréales, on a aussi des déchets, les mauvaises graines.
Donc rien ne se perd, tout se transforme.
Tout à fait.
Chez vous.
Ouais.
En fait, on essaye de... Notre objectif, c'est de travailler le plus possible en autonomie, de réfléchir le plus possible avec notre tête, d'agir avec nos bras et avec le soleil et la terre.
Voilà, il y a zéro déchet. Alors Isabelle et Guy, si jamais, par malheur, vous aviez une attaque de parasites, sur une de vos légumineuses, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire ?
Pour pallier justement à un manque de production, notre objectif aussi, c'est de pouvoir avoir un stock suffisant d'une année sur l'autre. Déjà, un petit peu comme il se passe dans le monde, on essaye d'avoir plusieurs mois d'avance parce que on peut avoir les années suivantes ne se ressemblent pas. Hein, c'est ce qu'on a toujours dit en agriculture, puisqu'on est dépendant du temps. Et c'est vrai qu'on peut avoir une année une bonne récolte, l'année suivante une moins bonne récolte. Et donc, on essaye d'avoir une réserve
à long terme.
Tampon. Alors après, pour répondre à votre question sur, on emploie des variétés qui sont plus résistantes.
Des mélanges de
quand
variétés.
Quand on cultive des légumineuses, parce qu'on cultive en légumineuses, on a 50% en herbe et 50% aussi en culture qui vont servir pour l'alimentation animale, genre févrole. Aujourd'hui, on cultive des légumineuses qui sont, disons, en mélange. Donc, on cultive pas de mono. Variétés de mono-espèces. On mélange toujours plusieurs espèces, plusieurs variétés de blé, parce qu'il y a toujours une espèce qui est là pour compenser. Il y a une espèce qui va être moins productive, mais qui va être plus résistante. Donc elle va faire une barrière dans les maladies, par exemple. Quand vous avez des maladies sur le blé, il suffit de cultiver du blé résistant, qui aura un potentiel moins élevé, mais il va stopper la maladie. Du moins, il va éviter la propagation de la maladie.
Les solutions sont dans la nature. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'être passé en bio ?
Il n'y a aucun regret.
Pendant les années de reconversion, je pense que c'était un pari de tenir 5 ans. Je pense qu'il y a beaucoup d'exploitants qui ont vraiment peur de passer en bio. Depuis 18 ans, on en a vu pas mal défiler à la maison et qui n'ont pas encore pris décision de franchir le pas. Une crainte de ne pas maîtriser techniquement. Donc c'est vrai que les 5 premières années, c'était je pense un challenge de tenir techniquement. Bon, et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est la solution
d'avenir.
D'avenir. Je pense qu'il n'y aura pas 36 solutions. Je pense que ça sera la seule solution d'avenir.
Je vous remercie Guy, Blanche et Isabelle, hein, son épouse, d'être venue jusqu'à nous. Et puis on peut vous trouver sur Vergnette, sur votre exploitation.
Oui, tous les auditeurs qui sont intéressés de venir découvrir notre exploitation peuvent aller sur internet. Donc on a un site internet, lesmeulesfermières.com.
Voilà, peut-être la meilleure façon de se rendre compte de ce qu'est vraiment une exploitation bio. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Cette émission était préparée et présentée par Patricia Prévost
et réalisée par Jean-Michel Pantier.